sia un unico ideale piazzato lì davanti, giorno e notte convinti di far cose importanti, amici da star male, l'un verso l'altro attenti, forti, comprensivi, fiduciosi e contenti. Cos'è successo poi della nostra allegria? Forse il grigio del tempo ce l'ha portata via, o forse la ragione.
Bonjour, bienvenue à tous sur Radio Galère, aujourd'hui sur la fréquence 88.4, une émission spéciale de l'émission Informaction, ce lundi 13 mars, sur un petit retour sur la semaine de lutte et de grève qu'on a eue à Marseille et partout en France, avec de nombreuses manifestations. Et aujourd'hui, ça va être les principaux thèmes de notre émission. Je suis avec Louise.
Salut, et on n'est pas seul aujourd'hui sur ce plateau. On peut accueillir Jade et Marie qui sont là aussi pour interagir avec nous.
Hello.
Coucou.
Ça fait trop plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et comme vient de le dire Inès, ça va être un chouette moment pour revenir sur ce qui s'est un peu passé la semaine dernière, qui était une semaine remplie de grèves et de révolutions, youhou. Et on va pouvoir un peu parler de ce qui s'est passé, que ce soit pourquoi les gens se sont mobilisés, qui était là, mais aussi un peu se questionner sur un peu la profondeur de tout ça, quoi.
Voilà, les questions idéologiques autour de la réforme, qu'est-ce qu'on souhaite comme modèle de société, voilà, tout ça, ça va être très rigolo. Préparez-vous.
Et
tu peux commencer peut-être, Louise, à rappeler les chiffres.
Oui, du coup, pour bien commencer, déjà, on va parler de chiffres, parce que c'est ça qui nous importe, nous, dans cette émission, c'est parler de chiffres. La grève du 7 mars à Marseille, selon la CGT, c'est 245 000 manifestants, donc c'est contre 205 000 contre la manif du 31 janvier. C'est soit 8 fois plus que la préfecture qui en dénombre 30 000. Donc ça nous fait toujours bien rire de voir un peu ce différentiel des chiffres, quoi. Et par exemple, l'autre manif, elle avait fait 40 000 manifestants. Donc ce sont les sources de France Info. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que y avait 60 à 70% de grévistes dans les écoles et 200 écoles étaient fermées.
Ouais, donc on voit bien qu'il y a une mobilisation qui tient et qui grossit, en fait, parce que les gens ne sont pas prêts à lâcher l'affaire. Et du coup, nous, on était présents, l'équipe d'Informaction, à la manifestation du 7 mars, et on a pu interviewer donc, de nombreuses personnes, dont des syndicalistes qui, bien sûr, étaient là, et dont un monsieur de l'UNSA Interpro, avec à notre micro Vincent Gomez, à qui on a posé la question « Pourquoi c'est la galère ?» On va l'écouter tout de suite.
Les salariés surtout risquent d'être dans la galère, non sérieusement, par rapport à ce gouvernement et par rapport à sa méthode surtout, de vouloir imposer quelque chose où on voit bien que la majorité, non seulement des salariés, mais aussi de la population, n'en veut pas. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'au niveau des salariés actifs, actuels, jeunes ou moins jeunes, s'aperçoivent que cette nouvelle réforme va les obliger à travailler plus, mais surtout dans des conditions pour certaines catégories de salariés où ils n'arriveront pas au bout du bout, quoi. Donc arriver à la retraite pour malheureusement après finir un mois ou deux mois après au fond d'un trou, je dirais, c'est pas l'objectif. Toute une vie de sacrifices quand on travaille, selon le travail que l'on fait en plus, donc les plus durs, ceux où on est à l'extérieur, où on a le vent, la pluie, ou alors le stress, tout ça, pour arriver en fin de vie, entre guillemets, pour profiter un mois ou deux de sa retraite. Alors, je caricature, bien évidemment, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça qui nous fait réagir, nous l'UNSA, comme les autres syndicats, et d'être dans la rue.
Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la mobilisation de ces dernières semaines ?
J'ai l'impression, alors pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres officiels aujourd'hui, mais au vu de ce que je vois, j'ai l'impression qu'elle continue à augmenter. On a beaucoup, beaucoup plus de jeunes aujourd'hui dans la manifestation. Ça, sans avoir les chiffres, je m'en aperçois. Ce qui veut dire que les jeunes, contrairement à ce que voudrait faire croire le gouvernement, se rendent compte que tout n'est pas perdu. Parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui disent « Ouais, mais de toute façon, la retraite, on ne l'aura pas. » Moi, j'ai 62 ans. Déjà, à mon époque, on disait ça. Et on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Mais on peut avoir une retraite, effectivement, digne, plus digne que celle que nous propose ce gouvernement-là. Voilà.
Vous pensez qu'il est encore temps de le faire reculer, justement, ce gouvernement ?
Ben oui, il est encore temps, bien sûr qu'il est encore temps. Jusqu'à fin mars, je crois, il est encore temps. Jusque-là, il va falloir mettre la pression pour qu'il s'aperçoive qu'ils ne peuvent pas faire passer une réforme injuste, brutale, rejetée par la majorité de la population française et des salariés en priorité, qu'ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas parce qu'ils ont été élus qu'ils ont tous les droits.
Ok, bon, bah, on voit que c'était pas content, quoi.
Non, non, non. En tout cas, Vincent Gomez était bien là. Et en fait, surtout, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que, justement, on peut aujourd'hui se poser la question de comment partir dignement à la retraite. Et ce qui pose aussi la question, en fait, de à quel point cette réforme, elle peut être idéologique, dans le sens où il y a plusieurs solutions possibles, notamment, par exemple, ce qui est proposé quand on parle de taxer les riches. Je sais que ça choque beaucoup de gens, parce qu'on va tout de suite dire que c'est de la jalousie. Mais en réalité, en fait, justement, on peut voir qu'il y a une volonté, en fait, derrière de précariser encore plus les salariés, le corps de travail. Et du coup, en fait, qu'on va aussi pouvoir mettre en lien cette question de l'idéologie avec la loi Darmanin qu'on va aborder plus tard. Mais on pourrait se demander si c'est pas tout de suite une histoire de rigolade, en fait. Peut-être que Macron et ses potes, ils trouvent ça drôle.
Mais Macron et toute la clique, ils se foutent de nous.
La voilà. Bonne rigolade.
La bonne rigolade, on rigole.
Bien sûr que Macron, il se fout de notre gueule, là, pour le tir.
Ah bah oui. Et bien sûr, il y avait aussi des collectifs présents sur place, comme Révolution Permanente.
Tu avais présenté ton collectif et tes revendications pour cette journée.
Ça va. Bah écoute, nous, c'est Révolution Permanente. Du coup, on est un parti révolutionnaire d'extrême gauche. Anciennement, avant, on était au NPA. On est parti il y a 2 ans à peu près. Alors nous, on est une toute jeune organisation. Notre objectif, bah, comme le dit notre nom, hein, c'est de faire la révolution, de construire en tout cas un parti révolutionnaire qui soit capable de jouer un rôle décisif en tout cas dans des prochains mouvements de lutte des classes et tout ça. Là ici on est à Marseille, on tient une table fixe et on est présent aussi dans le cortège jeunesse. Là ici sur la table on porte la caisse de grève aussi du lycée Victor Hugo en soutien en fait aux AED de Victor Hugo qui subissent une répression syndicale qui est très forte, qui se mobilisent pour leurs conditions de travail, le salaire, mais aussi pour dénoncer un cas d'islamophobie et de racisme très fort de la part de la direction de l'établissement. Et voilà, bah écoute, nous on est.
Qu'est-ce que t'en penses de cette réforme ?
Eh bah, contre cette réforme, évidemment qu'on est contre, hein, évidemment qu'on est contre. On est contre cette réforme et son monde. Maintenant, on pense qu'il faut aller plus loin que ce que propose aujourd'hui l'intersyndicale, c'est-à-dire que des dates isolées, avec aucun plan de bataille, etc. Nous, on pense que ça nous permettra, en tout cas, de poser la question du rapport de force pour gagner aujourd'hui. Macron, Véran et tout le gouvernement ne font que nous le répéter. Qu'on soit 2 millions ou 10 millions, ça ne change rien. Ce qui change, c'est le rapport de force par la grève. Et aujourd'hui, voilà, on pense qu'il faut, on interpelle les directions syndicales parce qu'on pense que justement, pour mobiliser en fait tous les précaires, pour mobiliser en fait tous ceux qui nous restent à venir chercher, etc., il faut un réel plan de bataille. C'est-à-dire que là, on perd du salaire, mais la question de la grève générale reconductible n'est pas posée de manière claire. Pour le moment, il y a encore des secteurs qui sont prêts en fait à partir, mais qui n'ont pas envie de faire de grève par procuration. Nous, on a beaucoup de camarades, par exemple, dans la pétrochimie, et notamment des raffineurs qui ont tenu le mouvement en fait en novembre pour demander des meilleures conditions de salariale, lutter contre l'inflation, etc. Juste, ils ne veulent pas partir seuls, ils ne veulent pas partir en fait pour faire une grève par procuration. Et pour moi, il y a une responsabilité qui est énorme, en tout cas des directions syndicales, puisque quand on a un écho, quand on est capable de mettre 2 800 000 personnes dans la rue, ce qui est un chiffre qui est absolument historique et énorme, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin que juste d'inciter les gens à peut-être, pourquoi pas, faites ce que vous voulez et peut-être repartir en reconductible. Non, il faut poser un vrai plan de bataille, implanter en fait des assemblées générales interprofessionnelles dans tous les territoires, etc., et poser concrètement la question du rapport de force. Je suis d'accord avec eux, hein, quand Fabien Martinez dit qu'on n'a pas le bouton sur la grève générale, je suis d'accord, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Par contre, c'est quelque chose qui se construit. Et lorsqu'on a l'impact médiatique qu'eux, ils ont, l'implantation géographique et sectorielle qu'eux, ils ont, je pense qu'il y a une responsabilité et qu'aujourd'hui, il faut poser la question de comment on va gagner.
Ouais, donc du coup, là, c'était Révolution Permanente. Est-ce que vous voulez un peu réagir sur tous les sons que vous entendez ? Je sais pas, parce qu'il y a Jade et Marie qui sont là avec nous. Mais donc là, c'était Révolution Permanente. Bon, ils nous apprennent rien de spécial dans le fond, à part qu'il faut qu'on fasse de la grève reconductible pour lutter et tout ça. Enfin, tu t'en penses quoi, toi, Inès ?
Bah, moi, je pense que peut-être qu'il a raison dans le sens où, en fait, justement, les syndicats, ils ont un pouvoir médiatique et politique très fort. et que justement, oui, il faut aller chercher les secteurs qui aujourd'hui sont encore trop isolés par ces questions-là de lutte et qui, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées. Et du coup, je trouve que l'histoire de créer des assemblées interprofessionnelles partout sur le territoire pour qu'il n'y ait pas ces inégalités-là d'informations, c'est plutôt pas mal. Et puis après, par contre, oui, organiser une grève générale, c'est compliqué. Ce serait beau que ça se produise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, là-bas, là, au plateau? On voit vos petites têtes. Les auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes adorables.
Merci. Bon, ça ne nous apprend rien, mais en même temps, ça montre qu'on peut se mobiliser ensemble, parce que c'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Donc, on est là, on est tous mobilisés ensemble contre une réforme qui est injuste, et on le voit, injuste pour énormément de gens, pour plein de couches de la société, plein de personnes.
Et moi aussi, ce que je voulais rappeler, c'est que Mediapart hier a sorti un article qui nous rappelle en fait que dans la nuit de samedi à dimanche de ce week-end, le Sénat a accepté justement la réforme des retraites. Donc il faut encore qu'elle repasse à l'Assemblée nationale pour être revotée. Mais en tout cas, voilà, le Sénat s'est exprimé, lui qui était à la base un peu contre cette réforme, a finalement accepté. Et le président des Républicains, donc Bruno Retailleau, a pu exprimer donc son contentement en disant que justement cette réforme était bien la leur, donc une réforme de droite, et qu'il fallait qu'elle passe, cette réforme. Et que donc on peut aussi se poser la question en se disant que c'était drôle quand même, parce qu'à la base on avait un gouvernement qui nous parlait du en même temps, et finalement on n'a pas trop de en même temps, on a plutôt juste de la droite.
Ça tient, comme c'est étrange. Du coup là on était un peu en train de vous montrer un peu qu'est-ce qui se passait dans cette manif et qui était présent et présente dans cette manif. Donc on voit que on a des partis politiques, on a les syndicats qui sont là. Et là ce qui était intéressant et que moi j'ai trouvé que ça chouette dans cette manif, c'est qu'il y avait aussi le collectif Pride en grève. Et donc du coup on est parti aussi les voir et les rencontrer, et en fait moi je trouvais ça hyper chouette d'avoir un cortège de Pride dans une manif contre la réforme des retraites, parce que en fait elle porte des questions aussi de qu'est-ce que sont et où sont les personnes queer, trans, pédéguines parfois ne sont, ou toute autre personne qui ne sont ni affiliées par le travail ni par le syndicalisme, des personnes qui sont au RSA, et en fait comment elles s'intègrent dans une manifestation contre la réforme des retraites, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que sont les valeurs du travail, enfin où se positionnent les valeurs du travail, et aussi enfin la question du chômage, parce que en fait on parle beaucoup dans le syndicalisme ou tout ça des champs professionnels et des champs du travail, mais en fait il y a du travail que parce qu'il y a du chômage aussi, en fait c'est là où est l'équilibre, et on voit aussi que c'est un système, la retraite c'est un système de solidarité, c'est un fonds de solidarité qui est aussi basé sur la famille, et donc du coup ça vient questionner qu'est-ce que sont les systèmes de solidarité basés sur la famille hétéronormative, quoi. Donc je vais vous laisser avec l'enregistrement.
Bon, alors bonjour, je suis avec une personne à la manifestation contre la réforme des retraites. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, on est tout près de l'Ombrière au Vieux-Fort, et il y a un petit cortège Pride de grève qui s'est organisé avec l'impulsion de Rainbow Schlag, qui ces dernières années faisait un peu les Prides de nuit, les Pink Blocs le 1er mai, tout ça. Et en fait, l'idée, c'était face un peu aux précédentes manifs où les personnes queer, LGBT, transpédéguines, etc., elles avaient un peu... notamment celles qui n'étaient pas affiliées par le travail à des syndicats ou quoi. En tout cas, moi, j'avais le sentiment qu'il manquait un lieu pour les personnes qui n'étaient pas affiliées par le travail, par le syndicalisme ou d'autres formes d'organisation à cette manif qui nous concerne, même si soit momentanément on n'a pas de travail, de salaire, quoi. On peut être concerné par le RSA ou toute autre forme de précarité, tout en voulant quand même s'opposer à la réforme des retraites. Et l'idée, c'était un peu d'organiser un petit cortège qui permette aux personnes qui ne sont pas affiliées par le travail, du coup, de se retrouver et de porter des revendications notamment propre aux personnes LGBT, que la réforme touche aussi particulièrement pour plein de raisons, que ce soit les personnes qui sont discriminées dans l'accès au travail de par leur identité réelle ou supposée de personnes queer, mais aussi des personnes qui, de par des parcours de vie compliqués, parfois en lien avec notamment pour les plus anciens, le VIH, ou d'autres interruptions de carrière, bah, l'idée c'était de réunir tout ce monde-là et de pas rester de côté dans une mobilisation qui nous concerne, même si voilà, on a du mal à s'y retrouver.
Trop bien. Attends, juste, on se décale un tout petit peu, ouais. Je veux juste que...
Faut parler.
Non, c'est trop intéressant, c'est trop bien. Et est-ce que tu penses que tu peux revenir un peu sur le travail que... Enfin, tu me dis si tu veux en parler ou pas, ouais. Mais de ce travail d'enquête sur la manif que vous avez menée
Bah, en gros, moi, donc, enfin, là, je suis chômeur, je suis PD, machin. Et donc, bah, j'étais un peu dans ce cas de figure et je me demandais si j'étais le seul de me retrouver un peu en manif, à pas trop savoir où foutre les pieds, à papillonner de cortège en cortège, sachant que, bah oui, avant, c'était dans l'éducation nationale, mais là, je ne suis plus. Je pourrais pu aussi me dire, ah bah vas-y, l'enseignement supérieur, parce que j'ai eu la chance de faire des études, mais j'y suis plus, etc. Et du coup, je me suis dit que la meilleure manière de savoir si j'étais le seul et aussi de savoir si bah, y avait un intérêt à s'organiser, s'il y avait une envie de le faire, bah, c'était de faire une auto-enquête. Donc une auto-enquête en gros qui consiste en un questionnaire que j'ai diffusé via les réseaux sociaux, les groupes de discussion queer LGBT de Marseille que je connaissais. Et le but c'était un peu de savoir si, bah, comment on se sentait en manif. Est-ce qu'on était déjà dans les manifs, notamment bah, par le travail, le syndicalisme, etc. Ou est-ce que, bah, effectivement, parmi nous, il y avait des personnes qui avaient du mal à venir en manif, faute de cortège, ou de personnes pour les accompagner, ou en tout cas, faute d'un sentiment de pouvoir vraiment appartenir à ce mouvement social, et de s'y impliquer, si tant est qu'on est opposé à la réforme des retraites. Et du coup, voilà, l'idée, c'est donc cette auto-enquête. L'idée, c'est de faire une restitution communautaire. Donc moi, je regarde pas trop les résultats, j'essaye pas trop d'analyser les résultats des actuellement 60 personnes qui ont répondu. Et l'idée, c'est plutôt de faire une restitution où on va regarder les réponses ensemble autour de questions autour du travail, du syndicalisme, de la santé, et voir ce qu'on peut en conclure ensemble. Est-ce qu'on aura envie d'écrire un texte? Est-ce qu'on aura envie de faire des nouveaux slogans pour de prochaines manifs? Enfin voilà, l'idée c'était plutôt de tendre un miroir à la communauté pour qu'elle se questionne elle-même, si on peut dire ça comme ça, plutôt que d'organiser moi seul un truc tout fait. Même si donc, du coup, là entre temps, il y a la parade de grève qui s'est organisée et c'est très bien. Ça tu coupes.
Ouais, mais en vrai, c'est trop intéressant parce qu'en fait, là t'as mis en place genre, plus un outil pour pouvoir réfléchir collectivement que. Un projet de statistique, quoi, en mode...
Non, de toute façon, c'est le questionnaire, ne serait-ce que parce qu'il est diffusé à l'arrache et qu'il est construit un peu à l'arrache, il n'a pas de prétention scientifique, c'est juste pour rencontrer autour de ces questions-là. Quoi.
Et c'est quoi un peu les questions que tu poses dans ce questionnaire Tu l'as un peu déjà énoncé, mais...
Bien sûr, j'ai demandé un peu si les gens étaient allés en manif. Mm-hmm. J'ai demandé si... en gros, si on savait un peu où on en était côté retraite, est-ce que on a l'impression d'avoir, on a l'impression ou on a la certitude et on a vécu des discriminations au travail? Est-ce que nos trajectoires sociales ont été un peu empêchées est-ce qu'on a été mis en difficulté par nos identités LGBTQI+ dans le travail? Est-ce qu'on pense aussi qu'on a des choses spécifiques à dire sur le travail et sur la retraite et sur le vieillissement en général en tant que personne queer? Du coup, la question, c'est ça. Est-ce qu'on est spécifiquement touché par la réforme des retraites? Et est-ce qu'on a un regard à porter spécifique aussi sur le travail en général, sur des choses peut-être plus structurelles aussi que la simple réforme des retraites, mais en gros, qu'est-ce que c'est que le travail dans une société aussi où la solidarité elle est fondée sur la famille, où les aides sociales sont fondées sur la famille, où nos solidarités elles sont contraintes et forcées par le format familial hétéronormatif, on peut le dire, quand bien même il y aurait un accès depuis peu au mariage pour les personnes de même sexe. Du coup, l'idée, c'est de voir un peu comment on se positionne par rapport à ça et est-ce qu'on aurait des choses à dire? Est-ce qu'on a envie de parler de travail plus longuement? Et après, moi, la question que je veux poser, c'est est-ce que... ça, c'est pas de la question dans le questionnaire, mais c'est est-ce que la question du travail, c'est pas une manière aussi pour les personnes queer, LGBT, TPG de réappréhender la question de la lutte des classes, ou en tout cas de la classe, quand on nous a si longtemps restreint aux questions de genre, quoi.
J'en suis sûr.
Bon ben, bah, trop bien, merci.
Waouh. Bah, du coup, on va rallumer les micros. Et c'était assez intéressant tout ce qui s'est dit. Est-ce que vous arriverez-vous à répondre un peu à ces questions qui posent à la fin, qui sont très intéressantes?
Je crois que je n'ai pas noté toutes les questions, mais en tout cas, moi, ma toute première manif dans ma vie, c'était contre les retraites. Et je crois que j'avais 14 ans et du coup, je ne savais pas trop ce que c'était à ce moment-là. Mais en tout cas, il y avait eu un truc de me dire... quand j'avais 14 ans, ben, je sais pas, je me rends pas compte c'est quoi l'avenir, mais j'ai l'impression que ça avait l'air quand même important de se pencher sur cette question-là. Bon, à ce moment-là, j'étais encore dans un truc où je me disais, ben, je vais essayer d'avoir mon bac, je vais essayer de faire un truc professionnalisant pour assurer, je sais pas, d'avoir un salaire, quelque chose qui va faire que je vais pouvoir m'en sortir, etc., etc. Bon, depuis, il se trouve que j'ai aussi un peu changer les manières que j'ai d'appréhender la question du travail. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait me dire qu'il y a genre 15 ans de ça, j'étais déjà sortie dans la rue pour la même chose. Et là, du coup, je recommence à sortir dans la rue pour la question des retraites, là, en ce moment. Et je trouve que ça vient vachement parler. C'est quoi la... Enfin, c'est au-delà du mouvement des retraites et de la réforme, en fait. Il y a vraiment ce truc-là de la vision du monde qu'on a. Et est-ce qu'on a une vision du monde qui est portée sur ces trucs-là de la valeur travail, du fait de il faut galérer, il faut produire un effort constant toute sa vie pour ensuite accéder à une espèce de repos où on sait qu'il y a notamment les inégalités de genre, de classe, de race qui vont se reproduire parce que on va mourir plus tôt si on a travaillé dans des trucs qui détruisent le corps, qui détruisent la santé, etc. Et voilà, et du coup, ça me fait aussi me dire, j'ai l'impression que là, et notamment dans un autre enregistrement, il y avait quelqu'un qui disait, oui, il y a plein de jeunes, je sais pas combien il y en a, mais il y a plein de jeunes. Et je me dis, il y a plein de jeunes et plein de personnes, et notamment des personnes queer, où on n'est pas forcément sur un modèle de caisse de grève, syndicat, grève reconductible, etc. Mais en fait, on est là quand même. Et avec ce truc-là on a aussi d'autres visions du monde, on a d'autres manières d'appréhender les questions de l'effort, du travail, etc. On est aussi précaire avec d'autres conditions quoi, que celles des trucs de travail salarié. Et du coup, ça me fait penser à tout ce qui est les trucs de... on est plein à faire plein de boulots qui cotisent pas si on fait, si on fait du travail du sexe, si on fait ne serait-ce que... Genre, en fait, on passe notre temps à faire du soin chez nous pour les personnes avec qui on habite, pour les personnes qui sont, des personnes qui sont, qui ont des trucs de handicap autour de nous. Enfin, en fait, voilà, on est beaucoup à produire du soin pour des personnes autour de nous, faire à manger pour nos potes, toutes les réunions qu'on peut faire dans les différents collectifs de lutte dans lesquels on est, etc. En fait, on est énormément à produire plein de travail, mais qui n'est pas du tout un travail reconnu, salarié, etc., et qui, du coup, à aucun moment va nous faire cotiser pour quoi que ce soit à la retraite. Et du coup, il y a aussi ça, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression que je descends aussi pour dire, de toute façon, Nick, j'ai bien l'impression que je ne vais pas avoir de retraite parce que je suis précaire et que tous les formes de travaux que je fais, ce n'est pas des travaux qui sont reconnus dans ce système-là. Donc, j'ai l'impression qu'on est aussi beaucoup arrivé avec un truc de nous on veut c'est le système entier, enfin on est contre cette réforme mais avec des portées aussi plus plus révolutionnaires quoi, de aussi venir dire le travail c'est ce qui tue les, enfin ça tue plein de gens avec tous les trucs d'inégalité que ça recouvre quoi. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec une portée critique même de ce que c'est de travailler en fait.
Ouais, grave, c'est un peu c'est vraiment se poser reposer la question de qu'est-ce que c'est que la valeur quoi du travail, et c'est, enfin je suis trop d'accord avec ça, et en fait j'ai éteint le micro et on a continué à parler avec la personne que vous venez d'entendre, et on se disait mais oui, mais en fait enfin c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de valeur aujourd'hui dans ce monde, oui. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur salariale aujourd'hui dans ce monde? On voit très clairement que envoyer des grosses fusées dans l'espace, ça a de la valeur. Par contre cette personne-là, elle travaille, est bénévole et travaille au même mémoire de la sexualité et son travail de bénévole là n'a ni salaire, ne cotise pas, et donc en fait enfin c'est ça aussi la question du travail que ça pose, quoi.
Moi je trouve qu'aussi, encore une fois, ça pose la question aussi du mérite, du fait que par exemple le principe de méritocratie il est ancré dans nos sociétés alors qu'à la base ça vient d'un roman dystopique anglais quand même, donc c'est intéressant de voir comment ça a été récupéré et de savoir que justement, comme tu disais tout à l'heure Marie, que justement on parle certaines formes justement d'activité sont pas reconnues et sont pas comme si elles étaient pas méritées, enfin en tout cas elles ne méritaient pas salaire, elles ne méritaient pas reconnaissance, et qu'aujourd'hui aussi principalement dans nos sociétés on accède à la reconnaissance, on accède justement à une position sociale valorisée par le travail, et que ça c'est quelque chose aussi qui se traduit notamment même dans les discours politiques ou médiatiques sur justement les personnes qui seraient non actives, qui seraient des parasites sociaux parce qu'elles sont au chômage, alors qu'en réalité on peut plus parler de survie quand on a accès à ces aides-là. Et par exemple, il y avait Gérald Darmanin, notre cher Darmanin, qui dénonçait dans Le Parisien le gauchisme... paresse et bobo et son profond mépris de la valeur travail que défendent les ouvriers et les classes populaires.
Ouais. Ça fait un peu un truc aussi là de venir opposer les gens en mode les bobos ils sont contre les classes populaires.
Et ça, bobo, gauchiste et tout. Ouais. Puis ça encore une fois en fait ça vient justement essayer de diviser les opinions alors qu'à la base on était censé faire barrage à l'extrême droite. Et en fait au final on vient récupérer ces procédés avec des arguments en plus fallacieux. Donc ça c'est simplement un petit délice pour
le gouvernement. C'est trop un vocabulaire de droite de dire les parasites des l'assistanat qui travaillent pas. Ouais. Qui cotisent pas, enfin c'est horrible quoi.
Surtout
d'entendre
être reconnu socialement seulement par le travail, c'est quand même vachement rabaissant.
On est
contre. Bah, ouais. c'est en plus rien que pour prendre l'exemple même juste des femmes au foyer.
Voilà,
parce qu'il y a plus de femmes au foyer. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on en parle quand même de plus en plus, mais du fait de toute la charge mentale, d'exécuter les tâches ménagères, de tout simplement tenir un foyer, tenir une famille, tenir ses proches, en fait, tout ça, c'est pas valorisé. C'est juste, ce serait comme si c'était banal. Ça mériterait pas un salaire, alors qu'en réalité.
Est-ce qu'on n'a pas autre chose à donner à la société que notre force de travail ?
Voilà, aussi. Et oui, bah vas-y, Marie.
Ah oui, non mais c'est parce que je me disais avant qu'on change de sujet, j'avais juste envie de dire deux, trois trucs aussi. Il y avait aussi le truc de, pour avoir accès à une retraite, il faut avoir accès à un métier, du coup à une formation. Et aussi, je voulais dire, il y a beaucoup de gens aussi qui font, enfin je sais pas, je vais prendre mon exemple, mais parce que je me dis autant parler de moi plutôt que de parler à la place des gens. Mais je sais pas, bah moi par exemple, je fais de la radio, je fais de la coiffure. Des choses comme ça, mais en fait j'ai pas de formation reconnue, et en fait pourtant bah tu vois, même ça en fait je sais que c'est du travail que je fais, que je fournis, ça me prend du temps, etc. Et juste bah voilà, pour revenir au truc de y a aussi ce truc là de si t'es pas validé par une formation, un truc, une école, etc. Et ben voilà, mais enfin c'était aussi pour juste venir redire que
t'étais coiffeuse.
Venez me voir. C'était pour me dire. En fait, c'est juste, je me dis, moi, je passe mon temps à. Enfin, je me dis, j'ai choisi d'apprendre plein de choses, etc., mais juste par des biais différents. Et moi, je crois que je vais aussi dans la rue parce que ça me va pas que ça soit pas reconnu, ou en tout cas qu'on me dise que je suis assistée ou je sais pas quoi. Et un autre truc aussi, c'est l'enregistrement. Du coup, il m'a aussi pas mal fait penser à ça veut dire quoi de vieillir quand on n'a pas de famille hétéronormée. Et en fait aussi, moi je pense que la question des retraites, ça vient vraiment avec un gros truc de peur, parce qu'en fait quand il n'y a pas de famille nucléaire autour de nous qui nous tient et tout, il y a aussi un truc de, ça fait appel à des trucs de solitude, de précarité, de plein de choses. Et voilà, du coup c'est... Du coup, là, je trouvais ça faisait ça d'interroger des personnes queer, en fait. C'est si elles n'ont pas de... si on sait qu'on... Enfin, c'est ça, qu'on n'a pas un espèce de noyau qui est reconnu, qui nous donne des aides et tout. Voilà.
Oui, c'est un peu... Enfin, la base du système de solidarité... il vient avec et ce qui est hyper important aussi, enfin qu'on ait des aides et un système de solidarité, c'est hyper important. Je suis pas du tout en train de le critiquer, mais c'est qu'il est basé sur la famille nucléaire, les aides sociales, enfin les allocations familiales. Et en fait ça, on voit qu'on est plus dans un... Il y a un petit peu de bruit parce qu'on a une nouvelle arrivée, Morgane, qui est juste là.
Touche le micro.
Salut Morgane.
Coucou Morgane. Coucou. Et en fait, on voit qu'on est un peu dans un état de providence familiale. Enfin, c'est ça notre héritage, c'est travail, famille, patrie, tu vois, ce truc-là, et qui est basé sur...
J'ai vu un truc en manif où il y avait écrit travail, famille, pas trop.
Mmh. Mais je trouve qu'au final tout ce qu'on dit en fait ça vient juste re-questionner en fait le modèle de société qu'on veut, ça vient re-questionner aussi la question du temps, la place que l'on souhaite en fait dédier à nos vies au travail. Est-ce qu'on veut l'annihilation par le travail, donner toute notre vie et après finir par mourir comme dirait Vincent Gomez, finir dans le trou juste après la retraite. Et ça c'est une question qu'a abordée justement une des syndicalistes du syndicat national de l'environnement. Et on va l'écouter parce que justement, ça concorde avec tout ce qu'on vient de dire.
Un syndicat, on est le syndicat national de l'environnement qui représente toute la sphère de l'environnement, de la transition écologique. Donc aujourd'hui, sont rassemblés les établissements de l'OFB, de l'Agence de l'Eau de Méditerranée Corse, l'ADEME, le Parc National des Calanques. Et on est là pour dire qu'on n'est pas d'accord pour une retraite à 64 ans parce qu'on est aussi des agents de terrain et qu'on ne voit pas tellement comment on va être sur le terrain encore à 64 ans. Qu'on pense aussi que de manière plus globale, au-delà de la retraite, c'est comment on consomme, comment on partage le travail. Est-ce qu'on est encore obligé de travailler 35 heures ou est-ce qu'on partage le travail? Est-ce qu'on se dit que le loisir a aussi sa place dans notre société? Et est-ce qu'on veut vraiment continuer à travailler pour une société et une industrie qui produit toujours plus au détriment de la planète?
Notre banderole, c'est charbonner plus, c'est climaticide.
Merci beaucoup.
J'insiste pour dire que c'est vraiment une question de modèle de société, c'est tout à fait ça. Quand on voit le chômage des jeunes, quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes, de travailleurs en fin de carrière qui ont du mal à trouver à des postes. Donc en fait, tout le monde n'aura pas ses annuités au complet. Et donc effectivement, on pense qu'on peut prendre soin des anciens et aussi laisser la place aux autres. Et à passer un certain âge, avoir droit à une retraite heureuse, en profiter un petit peu quand on a bien travaillé.
Ouais, ben assez intéressant parce que ça revient à tout ce qu'on était en train de dire précédemment sur la valeur du travail, mais aussi c'est la réforme des retraites, elle pose la question de la valeur du travail, mais de la valeur et même de la valeur environnementale. Et l'exemple, enfin tu vois, quand on voit qu'aujourd'hui, ce qui a de la valeur et ce qui a de la valeur marchande et monétaire, ça va être, je sais pas, par exemple, mettre des grosses bassines dans des endroits, enfin, je sais pas, aller fabriquer de la neige dans des montagnes au hasard. Enfin, ça, juste comme ça, j'imagine des trucs qui n'existent pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, j'invente, hein, j'invente de toutes pièces. Ça a de la valeur. Et par contre, repenser ce monde, ou alors, je pense à tous les travaux qui sont faits, ça, par contre, ça, bref, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je m'embourbe. Tu veux te dire un truc, Inès ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. Enfin, c'est beau, d'ailleurs, toute cette cohésion morale, féminine. Non, mais vraiment, je suis très heureuse de ce qui se passe. Mais oui, mais du coup, ouais, je trouve qu'au final, tout est en lien. Et ça revient, en fait, justement, à repenser aussi l'intersectionnalité des luttes. Parce qu'au final, je trouve que c'est ce qui transparaît beaucoup, justement, dans cette manifestation-là. C'est entre la pride de grève, le fait qu'il y ait eu une grève féministe juste après, le fait que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement de cohésion et que je pense que c'est ça aussi qui fait un peu flipper le gouvernement. C'est que pour une fois, on est ensemble. C'est un peu niais ce que je raconte, mais c'est un peu
l'union
vrai.
L'union
de
la gauche.
Oui, peut-être, un jour.
Ça y est.
Et est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale quand même ?
Ouais, alors, je tiens à préciser que toutes les musiques ont été choisies par la douce Marie, ici présente. Donc du coup, c'est toi qui choisis, tu veux mettre quoi en premier ?
Eh ben, je mettrais bien Doria, On prend tout, parce que je trouve que c'est une chanson qui vient... Enfin, c'est un peu genre On prend tout, donc vu qu'on parlait des mouvements sociaux et tout, c'est pas mal.
Vas-y, on chope tout, alors.
Allez. Okay.
Let's go. Lourd, ma mère.
J'ai fait un tour, vous m'avez saoulé. J'ai mis 2 jours à dessouler. Je me déplace pas pour t'embrouiller. Je connais du monde qui vient de soulever. J'ai mis la paire, elle est fraîche max. Tu dis pas psa-tech, cherche la même sur Nike. Je leur reviens rien, j'ai des codes. Ils sortent des escortes, ils font les coq-coq. Certains d'entre eux se font michetonner pendant que d'autres se font pistonner. Bac plus 8 comme un prisonnier pendant que d'autres sortent les pistolets. Fais tourner ton pète, on fume tout. Faut pas qu'on se répète, sans écoute. On sait pas faire la fête, on nique tout. J'ai jamais eu de dette, hamdou. De tout rien, on prend tout. Quand on consomme, nous on prend tout. on fait nos affaires, pronto. On négocie pas, on prend tout. De tout rien, on prend tout. Quand on consomme, nous on prend tout. On fait nos affaires, pronto. On négocie pas, on prend tout. Rien qui m'appelle, batté ou doudou. Soit je rentre pas, tu peux faire dodo. Je donne ton adresse, pas pour faire coucou. C'est comment c'est quand on donne le go. Comme une série limitée, tant t'es bien sûr qu'ils ont voulu m'imiter. Y'avait du monde qui voulait me signer. Gavé buzzé, ils ont voulu me douiller puis m'évincer. J'suis pas teubé, poto, bien sûr que j'ai géré mes dossiers. Y'avait du monde quand c'était la zerzer. Ils savent sec sec quand on est le verre vert. Deux ans plus tard, ils veulent me faire faire faire. Je veux me venger, pas besoin de paix, coup de fer. De tout rien, on prend tout. Quand on consomme, nous on prend tout. On fait nos affaires, pronto. On négocie pas, on prend tout. De tout rien, on prend tout. Quand on consomme, nous on prend tout. On fait nos affaires, pronto. On négocie pas, on prend tout. Ils font des gangsters, ils boivent du shit trompec. J'étais fâché, Zama, il s'est trompé. Y'a pas plus grillé qu'un regard trompeur. Donc si on passe à table, ce sera les yeux fermés. On parle peu, tu parles fort, t'assumes pas tes mots. Devant eux, tu parles de nous, donc t'es pas des nôtres. J'écoute leurs critiques et leurs com, je me fais pas défaut. Dodo, c'est toujours la même, échange pas d'épaule. Ouais, nique, 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 j'fais pas de pique-nique le dimanche. J'suis trop tendu, moi, quand j'suis un guidon. Il m'a doublé, j'le fume à la deuxième manche. J'suis trop déter, y'a pas de pause, y'a pas de mi-temps. Pas besoin de mots pour que j'bouge la tête. Laisse tourner la prod, appuie quand même sur rec. On attend pas samedi pour faire la fête. Fais tourner la prod, le siège le pète. On a pas vendu une autre âme, mon grand. Façon, c'est Dieu qui donne, qui décide du plan. Fais pas Miami, non, non. Je viens du côté de Panama, on a peur des bons plans. Fais tout rien, on prend tout. Quand on consomme, nous on prend tout. On fait nos affaires, pronto. On négocie pas, on prend tout. De tout rien, on prend tout. Quand on consomme, nous on prend tout. On fait nos affaires, pronto. On négocie pas, on prend tout. De tout rien, on prend tout. Quand on consomme, nous on prend tout. On fait nos affaires, pronto. On négocie pas, on prend tout.
Ouais. Pardon, mon micro n'était pas allumé, je parlais toute seule. Vous êtes toujours sur Informaction en direct de Radio Galère 88.4. On revient sur les mouvements sociaux de la semaine dernière. On est revenu sur la grève du 7 mars. Et là, on va faire un point. On a fait un point sur les personnes qui étaient présentes et qu'est-ce qu'elles disaient et pourquoi on était vraiment pas contentes. Et maintenant, on va parler d'un petit zoom qui s'est pas très bien passé. Je pense que c'est assez important de le dire. C'est le nombre d'interpellations qu'il y a eu pendant cette manifestation. Il y a eu beaucoup de mineurs et aussi de parler d'une des choses qu'on n'a pas dites aussi, c'est qu'il y avait le syndicat Alliance, qui est le syndicat de la police, qui était présent aussi dans la manif et qui s'est fait virer.
C'était pour dire bouh.
Bouh. Donc oui, il y avait le syndicat Alliance qui était présent et donc du coup qui s'est un peu fait virer des cortèges. Mais donc ouais, Inès, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ces interpellations qu'il y a eu
Ouais. Alors à la base, c'était notre confrère Mathéo qui devait faire ça, mais aujourd'hui il est malade. Donc,
big up Mathéo.
Big up. Hommage à toi et à ta maladie. Et donc moi voilà, je vais faire un petit retour sur l'article de La Provence qui est paru le jeudi 9 mars. Et c'est un article qui a été écrit par Pierre Korobainik, je suis désolée monsieur si j'écorche votre nom, mais voilà. Et en fait, donc, dans cet article-là, donc qui s'appelle « Interpellation de mineurs mobilise syndicats et élus », on apprend que 8 mineurs ont été arrêtés lors de la manifestation du 7 mars et tous gardés en garde à vue au commissariat de Noailles. Donc on a donc principalement des collégiens et des lycéens, donc tous mineurs, placés en détention alors qu'ils, elles, exerçaient leur droit de manifester. On peut se demander si le but, c'est pas de dissuader une génération, de s'investir politiquement et ainsi aussi peut-être d'entraver la propagation de la lutte auprès de leurs camarades. Et donc parmi ces 8 mineurs, 4 ont passé la nuit au poste, 3 du collège Don Bosco et Longchamp et une élève d'à peine 14 ans. Le lendemain, ils ont été relâchés, écopant d'un rappel à la loi. La lycéenne de 14 ans, elle livre son ressenti justement dans la Provence, à la sortie du commissariat, où elle dit « Je pense avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment ». J'étais au rassemblement du soir et j'ai simplement tenté de me mettre à l'abri après des jets de lacrymo. Je me suis fait choper sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Donc voilà, on a une gamine de 14 ans sous le choc. Et en tout cas, les syndicats, les élus et les individus lambda se sont montrés assez outrés, c'est le moins qu'on puisse dire, devant ces arrestations arbitraires. Et ils étaient plus de 1000 le lendemain à manifester devant le commissariat. Et il faut savoir aussi qu'un des jeunes de 17 ans a passé 24 heures en plus au poste sans la possibilité de prévenir sa famille alors qu'il est mineur. Ce dernier a été accusé d'avoir frappé une policière alors que les vidéos de surveillance démentent ces accusations. Et ce qui est aussi intéressant, et ça c'est toi qui m'as informé Louise, c'est qu'il y avait un mineur non accompagné qui a aussi lui été, c'est pas écrit dans l'article de La Provence cette fois.
Tiens, oui, c'est ni écrit d'ailleurs dans l'article... De France Info, il me semble, parce que je cherchais les informations, mais oui, il y a bel et bien un mineur isolé qui a été pris alors qu'il n'était ni dans la manif, ni dans aucun cortège. Donc on voit bien le racisme dans la police qui se balade et qui prend comme ça des gens, des jeunes, et qui a été emmené en garde à vue par la suite. Donc, et cette manif a été particulièrement violente, hein. Il y a eu des blessures, il y a eu des coups de matraque à la fin de la manif du 7, il y a eu des personnes gazées, et ça c'est très peu dit aussi, donc je tiens aussi à rappeler les violences policières, quoi.
Ouais, donc là on va un peu aborder le volet répressif de notre émission.
Ouais, parce qu'en fait cette manifestation, c'était, elle parle de la réforme des retraites, mais aussi elle parle, il y a pas que la réforme des retraites en ce moment, et il y a aussi la loi Darmanin qui est en train d'être mise en place. Et donc là, il y a Inès qui va vous faire un peu un zoom sur la loi Darmanin et sa dangerosité.
Voilà. Alors oui, alors en fait déjà ce qui est intéressant et ce qu'on peut rappeler, c'est que justement la loi Darmanin, elle est pas, qui en fait en réalité s'appelle la loi asile et immigration, elle est pas que le fait de Gérald Darmanin. Elle est aussi justement travaillée par Olivier Dussopt, qui est notre ministre du Travail, qui lui aussi travaille donc sur la
réforme des retraites.
Exactement, voilà. Donc en fait, au final, tout est lié. Et on voit bien qu'il y a justement une espèce de concordance idéologique dans les réformes et dans les lois qui sont mises en place ces temps-ci. Et qu'on est bien justement sur un gouvernement qui appuie et qui décide justement d'être de plus en plus répressif. Et même si il revendique le fait de se battre pour la liberté des Français, c'est assez questionnable. Voilà. Et donc on va pouvoir écouter justement un membre de la coordination de la lutte contre cette loi qui était présent sur place justement en table fixe et à qui on a posé la question parce qu'on s'était dit tiens c'est assez drôle parce que la réforme des retraites elle occulte pas mal justement tout ce qui se passe d'autre sur le plan politique et lui était présent et il nous a expliqué justement, on lui a posé la question quels étaient les enjeux de cette loi.
C'est quoi les enjeux justement de cette loi?
Alors il y a plein d'enjeux différents mais principalement... un des éléments que vend le gouvernement comme étant progressiste, c'est un nouveau titre de séjour qu'ils appellent métier en tension. L'idée, c'est en gros un titre de séjour réservé aux métiers les plus pénibles que la plupart des Français ne veulent pas forcément faire et qui du coup manque au patronat pour que l'économie fonctionne. Et du coup, le patronat, sa solution, c'est de faire un titre de séjour précaire d'un an pour les personnes sans papier, pour les exploiter dans ces domaines-là. Donc c'est vraiment du chantage au titre de séjour, parce que c'est un titre de séjour qui va durer qu'un an, sans aucune certitude sur le renouvellement, sur les possibilités de regroupement familial, sur qu'est-ce qui se passe si jamais la liste des métiers en tension évolue, est-ce que les personnes qui se sont engagées là-dedans vont pouvoir garder leur titre de séjour. Donc on estime que c'est une fausse piste et en fait qui va pas régulariser beaucoup de personnes. Ça, on sait déjà que le gouvernement a pris des engagements auprès de la droite en disant que ça concernerait que quelques milliers ou quelques dizaines de milliers par an sur plusieurs centaines de milliers de personnes sans papier actuellement. Donc c'est finalement très peu de personnes sans papier qui vont être concernées. Et au-delà de ça, en fait, ce que ça cache, c'est beaucoup plus de répression, d'expulsion, parce qu'on va avoir des systématisations des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, qui vont être distribuées beaucoup plus rapidement qu'avant. La systématisation des IRTF, des interdictions de retour sur le territoire français, où en gros ce que ça revient à dire, c'est soit vous travaillez pour l'économie française dans les métiers qui nous sont utiles, soit vous dégagez du pays et du territoire européen et vous ne pouvez pas revenir pendant les 5 années à venir. Donc c'est vraiment précariser et empêcher les personnes et les mettre en danger pour revenir ensuite sur le territoire français.
Tu les continues à exploiter en fait une main-d'œuvre qui coûte pas cher en fait au final et...
C'est continuer à exploiter une main-d'œuvre qui coûte pas cher. Et faire mine de donner, de régulariser, alors qu'en fait derrière ça va être vraiment expulsé et traiter les étrangers comme des criminels, parce qu'il y a aussi le retour de la double peine qui dit en gros que si des personnes sans papier ou qui ont déjà des papiers pour certaines sont condamnées sur certaines condamnations, on pourrait leur interdire la régularisation ou leur retirer leur titre de séjour si elles ne respectent pas certaines valeurs de la République, sachant qu'on a déjà vu que ça pouvait vouloir dire plein de choses différentes, ne serait-ce que participer à une manifestation ou ouvrir un peu trop sa gueule, ça peut être déjà ce genre de choses. Donc vraiment, c'est museler la contestation des personnes sans papier. Nous, ce qu'on veut, c'est pas une régularisation au rabais, c'est des titres de séjour et une régularisation pour tout le monde, des papiers pour tout le monde ou pas de papiers du tout. Et aussi, enfin, ça concerne des restrictions sur le droit d'asile, parce qu'il y a aussi la fin de la collégialité de la Cour nationale du droit d'asile, qui, en gros, quand les personnes sont déboutées du droit d'asile, elles peuvent aller à Paris pour faire un recours. Et là, jusqu'à maintenant, il y avait trois juges qui pouvaient juger de ça. Et là, ils veulent supprimer ces trois juges pour en mettre un seul. Ce qui va faire que s'il y a un seul juge qui est trop déconnant, s'il y a un seul juge qui est trop déconnant, il ne pourra pas être, réprimé par les autres juges. Voilà. Bon, j'ai à peu près fait le tour. Et peut-être le dernier truc qu'on peut dire, c'est une restriction encore plus forte sur les conditions linguistiques. Oui, en gros, ils veulent conditionner, mettre des nouvelles conditions linguistiques pour l'obtention des titres de séjour, qui vont être beaucoup plus drastiques et qui sont également dénoncées par les professeurs de français langue étrangère.
Moi, j'avais une question par rapport à votre présence aujourd'hui, parce qu'on est quand même sur la loi des retraites. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important d'être là, même si c'est une réforme différente? Pourquoi vous avez votre stand ici?
Il y a plusieurs aspects à ça. Déjà, on estime que c'est dans une dynamique globale de néolibérale de taper sur les plus précaires, de forcer les gens les plus précaires à travailler, donc que ce soit les personnes âgées, les gens au chômage, au RSA et les personnes sans papier. C'est vraiment de dire tout le monde au boulot, sinon on vous enlève, soit on vous enlève vos retraites, soit on vous enlève vos droits sociaux, soit on vous renvoie dans votre pays. Donc c'est un peu une logique assez similaire. En plus, les personnes sans papier, on voit que c'est les politiques qui touchent les personnes sans papier. Elles peuvent être ensuite généralisées sous d'autres formes aux personnes qui sont en situation régulière et aux personnes françaises. Et puis enfin, ça permet aussi de visibiliser cette mobilisation contre la réforme, contre le projet de loi Darmanin, sachant que c'est aussi ce projet de loi Darmanin, c'est aussi un, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un projet du ministre du Travail, d'Olivier Dussopt, qui est du coup sur les deux projets de loi. Voilà, c'est lui qui est à l'œuvre sur les deux projets.
C'est intéressant.
Voilà, donc c'est vraiment une logique de travailler, ou sinon on veut pas de vous. Voilà.
Ok. Alors, du coup, ouais, on vient d'entendre donc l'une des personnes de la coordination de la lutte contre cette loi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un site internet qui répertorie justement toutes les paramètres de cette loi et qui tient au courant aussi de tous les événements de lutte et contre la loi asile et immigration, qui s'appelle le GISTI et qui est, si je ne m'abuse, un groupe aussi de juristes et d'avocats donc spécialisés dans le domaine du droit pour défendre les demandeurs d'asile, et qui rappelle notamment en fait que justement en fait le projet de loi numéro 304 pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration justement va aussi toucher l'outre-mer. Ça, c'est une partie justement sur la partie justement des DOM-TOM qui s'appelle dispositions diverses et finales. Et on peut se poser la question en fait de la départementalisation du droit et de savoir justement à quel point en fait ces départements-là qui sont français, mais qui sont français quand ça arrange en fait le gouvernement, vont être touchés par cette loi. Comment justement aussi des personnes qui viennent chercher l'asile de manière totalement en fait je sais plus les mots, comment dire, de manière en fait totalement légitime, parce que justement ça fait partie, en France on est censé justement par les droits internationaux, on est censé respecter les demandeurs d'asile, donc ça veut dire que quelqu'un qui fuit la guerre tout simplement ne pourra pas forcément en fait accéder à cette demande là c'est déjà quelque chose qu'on voit en Angleterre avec justement la nouvelle loi qui est passée, qui fait que maintenant même un demandeur d'asile classique, s'il est arrivé de manière illégale sur le territoire, il sera forcément renvoyé. Donc on voit bien qu'il y a une volonté globale européenne en fait de stigmatiser les étrangers, et là en fait sous couvert de vouloir assurer de mieux en mieux les métiers en tension, enfin en tout cas c'est ce qu'avance Darmanin, en fait au final ces gens-là vont être encore plus précarisés, on va utiliser leur force de travail pendant un temps très court, et ensuite on va les renvoyer une fois que c'est bon, ils seront inutilisables, et du coup ça permettra aussi d'utiliser des mineurs qui eux sont là tout seuls, les mineurs non accompagnés, et comme des des métiers en alternance, et une fois qu'ils se seront blessés au travail, comme on voit qu'il y a beaucoup d'accidents chez les jeunes qui ne sont pas très très formés, c'est normal, c'est pas de leur faute, et on les renverra. Je ne sais pas si quelqu'un avait envie de rebondir, il me semble que toi Jade, tu avais lu un article sur l'internaute qui précisait des choses justement sur cette loi anti-immigration.
Oui, ça précise des choses, qui sont très graves, comme on l'a vu et puis comme on l'a entendu. Donc on a des étrangers, donc des personnes qui sont considérées comme étrangères, donc qui vont arriver en France donc, avant l'âge de 13 ans, donc qui résident en France depuis plus de 20 ans ou de 10 ans, qui sont conjoints ou parents de Français et qui pourront, ils pourront faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui est quand même assez grave.
Moi, ce que je voulais préciser aussi, parce que ce que tu appelles justement les obligations de quitter le territoire, les OQTF, c'est un truc qui est re-rentré dans le débat français. On n'en entendait pas spécialement parler, en tout cas dans le débat médiatique. C'est le meurtre de Lola, qui justement a été tuée de manière... c'est un fait divers assez sanglant et sordide par une Algérienne qui, elle, en fait, avait été... c'est pas pour justifier le meurtre, mais il faut juste préciser le contexte, c'est-à-dire que c'est une femme qui avait vécu énormément de violence dans sa trajectoire pour arriver en France, que malgré le fait que justement il y ait un passif colonial entre la France et l'Algérie, toutes les personnes qui arrivent sur le territoire français n'ont pas forcément pris l'avion. Elles ont traversé des conditions très très dures. Et du coup, cette femme, au lieu d'avoir été prise en charge sur le territoire français parce qu'elle avait des problèmes psychologiques, elle a été lâchée dans la nature et elle a fini par assassiner une jeune fille, ce qui est tragique, mais qui du coup a été malheureusement récupérée par l'extrême droite en disant que justement... ces personnes-là, ces émigrés, avec tout cet imaginaire aussi colonial derrière de personnes qui seraient pas civilisées et qui représenteraient du coup un danger invasif pour la France, ce qu'on peut rappeler aussi avec justement toute cette théorie du grand remplacement, et fait qu'en fait, justement, tout le débat public a été inondé par la question des OQTF, de devoir protéger les Français, c'était un véritable... Je crois que l'extrême droite avait utilisé le terme de meurtre identitaire, enfin qu'il y avait une volonté en fait de tuer les Français, tuer les Blancs, quoi. Et au lieu de justement parler des problèmes de gestion psychiatrique des personnes traumatisées en fait sur le territoire, c'est quelque chose qui pourrait à mon avis être évité si on faisait en aide à ces personnes-là. Je sais pas si quelqu'un veut interrompre mon monologue.
Mais il y a un gros souci en France, surtout sur les soucis d'identité, sur les questions d'identité, de comment on se sent, qu'est-ce que c'est être français. Je pense qu'avec l'immigration, donc avec ce souci de pas d'intégrer, mais plutôt d'assimiler donc les populations. Quand on écoutait l'extrait tout à l'heure, lui parlait de la langue française et de l'apprentissage de la langue. Je pense que c'est très important aussi de rappeler qu'il y a eu énormément de volonté d'oublier certaines langues au profit de la langue française. Et ce souci d'identité qu'on a en France et qui est vraiment porté par l'extrême droite, il est totalement contradictoire avec justement l'état des frontières et des migrations en ce moment. Les frontières, elles sont de plus en plus poreuses et les migrations, c'est des migrations qui sont beaucoup plus transnationales, c'est-à-dire qu'on va avoir un pays de départ, mais le pays d'accueil, il va être temporaire. On va avoir énormément de mouvements, que ce soit à l'intérieur du territoire ou de l'intérieur vers l'extérieur. Donc je pense que c'est aussi important de voir ces soucis d'identité-là.
Merci Jade. D'ailleurs, précise, tu fais un master d'anthropologie sur ces questions-là, du coup, tu sais de quoi tu parles.
Merci.
Ah oui. Mais d'ailleurs, on avait une super pancarte. C'est toi, non, Marie, qui avait une pancarte. C'est « On marche sur les frontières ». Tu peux nous le dire?
Ah oui, c'est à Marseille. c'est dans une petite rue à Marseille, il y avait écrit un truc genre « On piétine les frontières en talons aiguilles ».
Bien chi.
J'aimais beaucoup cette punchline.
C'est une belle image. En tout cas, on peut aussi se poser la question de justement, en fait, encore une fois, de l'intersectionnalité des luttes, parce que justement, cette réforme des retraites, elle va aussi impacter les femmes. Et du coup, on est parti à la rencontre de plusieurs personnes.
Comme on l'avait dit en début d'émission, on a interviewé plusieurs personnes toujours lors de cette même manifestation. Mais surtout, il y avait 200 écoles qui étaient en grève et c'était entre 60 et 70% de grévistes dans les écoles. Et donc là, on était allé voir une enseignante qui va un peu nous parler de qu'est-ce qui se passe dans les écoles, quoi.
Alors moi je suis Charlotte Bourgognon, je suis enseignante en CPCE1 et je suis aussi militante au syndicat le SNUIPPFSU.
Ok, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui et quelles sont les revendications porter?
Alors nous, clairement, on est là aujourd'hui parce que, bah, parce que pour nous, c'est pas possible de travailler jusqu'à 64 ans, voire 67 ans, bah, tout secteur confondu, mais particulièrement en étant en classe. Voilà, on en discutait avec les collègues tout à l'heure, il y a déjà des problèmes de dos, enfin, par exemple en maternelle, aller s'asseoir sur des petites chaises, etc. Enfin, pour nous, c'est juste pas possible, d'autant plus que c'est pas justifié, il n'y a pas besoin de faire travailler tout le monde plus longtemps.
Et est-ce que vous pensez que la réforme des retraites est une réforme anti-féministe ?
Ah bah oui, clairement, parce que celles qui vont payer en premier le prix de cette réforme-là, c'est les femmes, tous les économistes le disent, et c'est aussi pour ça qu'on se bat.
Ok, d'accord. Et développer un peu ou...
Déjà, chez les femmes, c'est chez les femmes qu'il y a le plus de temps partiel subi. Nous, dans les écoles, on a les AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap. C'est des collègues qui subissent des temps partiels à 60% à peu près. Donc forcément, qui vont avoir des retraites minimes, qui ont des salaires très très bas. Donc tout ça, ça va impacter la retraite. Et même nous, dans les enseignants du premier degré ou du second degré, il y a des écarts salariaux importants entre les femmes et les hommes parce que les femmes ne peuvent pas prendre les mêmes missions supplémentaires que les hommes.
Et pourquoi cette histoire de mission complémentaire, si j'ai bien entendu, parce qu'il y a beaucoup de bruit? Pourquoi justement? Comment c'est justifié?
Eh bien parce que si tu veux, on va pouvoir nous demander par exemple de faire des stages de remise à niveau pendant les vacances, enfin tu vois, plein de choses qui vont pouvoir être rémunérées avec des heures supplémentaires. Et ces charges-là, en plus de notre temps de travail, les femmes souvent ne sont pas disponibles pour les faire parce que c'est souvent elles qui gèrent les enfants, le foyer, etc. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire encore Il y avait un bon exemple.
Pas adapté du coup les temps de formation qui pourraient vous faire avancer aussi dans votre carrière. Ou permettre de faire éventuellement mieux votre travail ou de vous sentir plus à l'aise, qui du coup sont positionnés de façon à ce que ce soit trop compliqué pour vous d'y avoir accès?
Non, alors ça, on a de la formation qui est obligatoire de toute manière, et ça, de toute manière, on doit faire avec. C'est sur les mercredis principalement, et donc on doit s'arranger parce que ça fait partie de nos obligations de service. Après, nous, on demanderait d'avoir de la formation sur temps de travail, c'est ce qu'on avait avant. Avant, un enseignant pouvait partir 3 semaines en continu en formation. Sauf que là, maintenant, on manque tellement d'enseignants qu'on n'a plus de remplaçants pour remplacer les collègues qui iraient en formation. Avant, le concours d'enseignants, il y a 10 ans, grosso modo, il y avait 20 candidats pour un poste d'enseignant. Actuellement, on est plutôt à 2 candidats pour un poste. Donc, il n'y a plus personne qui veut faire enseignant.
Ouais. J'avais une question par rapport à ça. Au niveau des, il y a de plus en plus de contractuels qui sont embauchés. Et la manière dont ils sont recrutés, elle est assez... par rapport aux enfants, ça veut dire qu'ils peuvent rester seulement 15 jours dans une classe. Ils n'ont pas de formation en amont. À part le casier judiciaire qui est vérifié, ils sont un peu lâchés dans la nature. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est un peu le signe d'une précarisation aussi de cette institution et de ce métier-là ?
Nous, clairement, ce qu'on voit, c'est qu'on a une prolétarisation du métier. C'est-à-dire que les collègues, pour la plupart, on voit qu'on est de plus en plus infantilisés. On nous donne du prêt à penser, du prêt à enseigner, alors que nous, on est concepteurs de notre métier et qu'on aimerait le rester en développant justement de la formation, etc. Et on nous donne de plus en plus des choses à faire très précises parce que justement, il y a de moins en moins de formation. Les contractuels actuellement, nous on a appris justement, et on n'a pas encore pu vérifier l'information, qu'il y avait des contractuels qu'ils avaient recrutés sans vérifier le casier judiciaire, mais qu'en tout cas c'est des entretiens qui se font au téléphone sans même avoir vu la personne. On a des collègues qui sont contractuels, qui sont envoyés dans les classes sans aucune heure de formation, aucune, qui n'ont jamais vu une classe, à part eux-mêmes quand ils étaient élèves. Et donc ça donne des choses assez catastrophiques, qui n'est pas de la faute des collègues contractuels concernés, mais de l'institution qui ne forme pas les collègues.
Est-ce que vous vous retrouvez à former vos collègues du coup sur votre temps de travail de manière...
Concrètement, ce qui se passe dans les écoles, c'est que ces collègues-là, on essaye de les protéger au maximum, même les jeunes enseignants qui arrivent. Et donc, on ne met pas en avant leur statut, soit de jeunes enseignants, soit de contractuels, et on les aide au maximum pour que la classe se passe bien. C'est dans notre intérêt à nous.
Du coup, ça vous fait du travail supplémentaire de les former alors que ce serait pas...
Déjà, un enseignant, le ministère dit qu'un enseignant du premier degré travaille 42 heures en moyenne par semaine. C'est les études du ministère, c'est pas celles syndicales. Nous, on dit à peu près la même chose. Donc déjà c'est assez énorme et oui ça c'est une charge supplémentaire pour les collègues de devoir aider parce que bien sûr on va pas laisser quelqu'un dans la galère dans une école. Ouais.
Et ouais on laisse pas les collègues dans la galère.
Tout va bien.
Tout va bien, tout se passe bien.
Pas de matériel endommagé par le verre d'eau que je viens de renverser.
Ouh. Alors ça par contre c'est erreur fatale. On ne met pas, on ne ramène pas. Bon, allez, on continue.
Protégez l'ordinateur, s'il vous plaît.
Oui.
Du coup, ce qu'on disait, c'est que on a entendu du coup cette enseignante. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ça revient, ça va venir justement faire écho au prochain témoignage qu'on va écouter, qui parle justement en fait de l'impact des trajectoires, enfin l'impact en fait de la charge mentale qu'ont les femmes en particulier sur l'éducation des enfants. Sur les tâches ménagères, etc., et la manière dont ça va impacter leur trajectoire professionnelle, et aussi, bien sûr, en fait, les trous de carrière que ça inclut quand on, tout simplement, on élève des enfants, on est des fois obligé de s'arrêter, et ça, par contre, avec la réforme des retraites, c'est pas pris en compte.
Alors, moi, je vais prendre mon exemple personnel, je travaille dans le commerce, j'ai 54 ans, imaginez la tête que je vais avoir dans 10 ans si les petits jeunes comme vous qui allaient venir pour acheter la Happy Technology, la High Technology, je ne suis pas sûre que je sois très très bonne pour pouvoir vous répondre ou vous conseiller comme il faut. Comme toutes les femmes de ma génération, j'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants. Donc je vous laisse imaginer la réponse, pourquoi je suis contre la réforme.
Par rapport justement au fait que ça ne prend pas en compte les trous de carrière qui font que justement...
Ça ne prend pas en compte les trous de carrière. Et puis quand on a repris le travail, on n'avait pas le choix, il fallait reprendre le boulot à mi-temps. Donc même quand on a repris le boulot des années après, on ne travaillait pas à plein temps. Donc moi, à la retraite, ça va être très compliqué.
Ouais, donc on vient d'entendre en fait une membre du syndicat de la Force ouvrière qui s'est exprimée du coup sur... sur le temps et trous de carrière.
Oui, c'est de manière générale, c'est le vieillissement, c'est la question du vieillissement et du travail, quoi.
Oui, c'est ça, mais et du coup, en fait aussi, on a pu entendre une manifestante assez jeune qui, elle, à qui on a posé la question de qui va impacter la réforme des retraites. On l'écoute tout de suite.
Bah déjà en tant que femme, en fait.
Voilà.
Je pense que le premier sujet qu'on peut reprocher, je trouve, en politique. C'est de revendiquer, par exemple, le fait d'être une femme, le fait d'être lesbienne, le fait d'être une personne racisée. Et c'est quelque chose que, dans cette réforme de retraite, je trouvais pas beaucoup mise en avant et que je trouve regrettable, alors que les femmes, c'est les premières touchées par la réforme de retraite, parce que c'est celles qui ont des carrières hachées avec le congé maternité et qui va pas être reconnue, en fait, dedans. Et c'est pour ça, il y a le collectif Nous Toutes qui en parle très bien, que les femmes vont vraiment perdre beaucoup, beaucoup d'argent et vont toujours avoir une retraite avec une décote. Et qu'elles ne pourront pas, par exemple, partir à 62 ans, qu'elles devront attendre jusqu'à 64 ans. Et c'est aussi un truc qu'on ne dit pas, je trouve, sur la réforme des retraites, qu'on ne peut plus partir avant. À l'heure actuelle, par exemple, là, c'est 62 ans. Si on veut partir à 60 ans, on peut, mais avec, par exemple, une décote de 5%, une décote de 10%,
c'est
long.
Tous les ans, quoi, jusqu'à la fin de ta vie.
Et sauf que là, on ne pourra plus, en fait. Et déjà, rien que ça, un truc d'impossibilité, enfin, il n'y a pas de question. Après, comment ça se fait que... On nous dit que là, il y a le président du collectif de la retraite qui a dit qu'il n'y avait pas du tout besoin de faire cette retraite, que la retraite, elle se portait bien, même avec le fait qu'il n'y ait pas tellement de naissances par rapport aux personnes âgées, qu'il y a plus de naissances que de personnes âgées. Et pourtant, on l'impose. Et parce que quand on regarde le programme de Macron, c'est quand même écrit, et ça, c'est un truc dont on ne parle pas non plus, c'est que c'est écrit que c'est pour faire des cadeaux aux actionnaires, pour rebooster l'entreprise suite au Covid. Sauf que, mais ça n'a pas de sens. Alors, rétablissons l'ISF, rétablissons tous les impôts sur les riches. Quand on voit que la personne la plus riche du monde est française et qu'elle n'est pas taxée, qu'elle n'est pas imposable en France, on peut quand même se poser des questions.
Ouais, c'est dingue. Hein. En gros, on est ici parce que énorme prioritarisation des entreprises face aux gens qui ont la retraite toujours plus tard, toujours pas assez. Et c'est scandaleux. Et en plus, on est jeunes. Et nous, on a été vachement touchés par tout ce qui est le mouvement écologiste, etc. On a une prise de conscience de la précarité de la situation, de la précarité de tout ce que les gens vivent. Donc en plus, on a une précarité sociale comme ça, c'est juste... c'est déconnant, c'est trop, et ça explique le ras-le-bol, quoi, le fait de sortir.
Ouais, et puis sous Macron, ils ont quand même enlevé le CFDT, qui était la condition de pénibilité du travail, qui fait que s'il y a un accident du travail, c'est beaucoup plus pris en charge. Et ils ont, en fait, enlevé la responsabilité de l'employeur sur les accidents du travail. Ils vont dire que, par exemple, s'il se coupe la main parce qu'il allait trop vite sur une machine, ah, c'est de sa faute parce qu'il allait trop vite, et pas parce qu'il manquait de formation, parce que les gants étaient moins chers, parce que ceci, parce que cela. Et Macron commence en fait à enlever tous les attraits dangereux du travail, la question de pénibilité, et les femmes sont quand même... On parle beaucoup du BTP, mais on peut aussi parler des femmes aides-soignantes. Les femmes sont celles qui sont le plus bénévoles, déjà. Tout le travail qu'on voit derrière d'aides-soignantes, d'infirmières, ce sont les femmes qui les occupent en première ligne, qui sont les plus précaires, qui vont devoir travailler tard, enfin plus tard que maintenant, alors que c'est des métiers qu'on ne peut pas faire toute sa vie, ce sont des maux de dos, etc. Et puis... Pardon, j'ai oublié mon point. Et puis, oui, que les femmes, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, mais les femmes sont beaucoup plus bénévoles dans la vie associative et on a besoin en fait de ces femmes-là qui, à partir de 64 ans, vont par exemple s'engager pour des associations de distribution alimentaire, pour garder des enfants. Et en fait, sans ces femmes-là, c'est horrible. Mais on a aussi besoin de cette main-d'œuvre-là en France pour faire tourner le pays, pour garder les petits-enfants, ce genre de choses toutes bêtes. Sauf que si le système il change de 2 ans, bah, ça va être des familles qui ne pourront plus avoir d'enfants. Et donc, en fait, ça va juste être un grand bouleversement. Voilà.
Et voilà, on était, c'était notre dernier enregistrement qu'on a fait sur cette... sur cette manif du 7 mars. On a vraiment entendu plein de voix différentes. Et là, on va peut-être repartir sur une petite pause musicale avec notre DJ préféré, DJ Murray. Qu'est-ce que vous nous avez choisi?
Alors, je propose qu'on écoute Kalika, Mon amour, mon ami.
Ok, pourquoi cette chanson? À part dire, parce qu'elle reprend du PNL.
Kalika, c'est une personne qui fait pas mal de reprises, que j'invite à aller écouter. Et j'aime, enfin, du coup, j'aime bien la manière dont elle chante. Et du coup, là, c'est une reprise entre deux chansons qui sont Mon amour, mon ami de Marie Laforêt et À l'ammoniaque de PNL. Et moi, genre, franchement, genre, faire une reprise d'un mix des deux, je trouve ça trop stylé.
Ok, trop voilà. Bien. Bon, et bah,
on va écouter ça.
On écoute ça. Allez là.
Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Ouais, 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 c'est le désert dans la toute, je remplace centime par sentiment, mon cœur se transforme en billet.
Je ne peux
Donc maintenant, on va passer à la partie
oui,
sur...
Oui, vous êtes toujours sur Informaction sur Radio Galère 88.4. On est toujours avec Morgane, Inès, Jade, et Marie et moi-même pour parler...
Morgane
de... Oui, Morgane, je l'ai dit.
Ah, pardon.
Et pour parler de cette semaine, la semaine dernière, une semaine de lutte, une semaine de grève, une semaine de révolution.
Finalement.
On a beaucoup parlé du coup de la...
De la réforme des retraites.
De la réforme des retraites. On a beaucoup parlé aussi de la loi Darmanin et de tout ce qui était. Maintenant, on va passer à la reconductible. C'est-à-dire que le lendemain, il y a eu la reconductible du 7. Manif avec plus de 1000 personnes, comme on l'a dit, avec un arrêt au commissariat. S'en est suivi juste après la manif kurde. La manif pour des féministes avec des hommes et des femmes kurdes qui étaient dans cette manifestation. Là, je suis contente qu'il y ait ma comparse Morgane avec nous. Parce que là, je vais vous lire un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des événements qui ont été faits. On reviendra dessus un peu après. Mais sur... La géonologie, et en gros c'est ce que portaient les femmes kurdes, les manifestantes, quelques manifestantes pendant cette manifestation là et donc du coup là je voulais juste un peu vous lire un texte de qu'est-ce que c'est que la géonologie, et après peut-être Morgane peut juste, si elle a envie, mais un petit peu vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les événements qu'il y a eu par la suite. Alors qu'est-ce que je me dis bien, la géonologie, c'est un terme original composé du mot kurde djinn, qui veut dire femme, et partage sa racine avec le mot vie, djia, ainsi que le mot logie, qui vient du grec logos, signifiant discours, raison, science. C'est développé depuis 2011 par le mouvement des femmes libres du Kurdistan. Elle se fonde sur 40 années d'expérience du mouvement kurde, ainsi que sur la recherche et l'analyse des cultures et des luttes des femmes du Kurdistan et du monde. La généalogie aspire à révéler l'histoire des femmes Air Story, et à raviver leur savoir et valeur. Son objectif est de permettre aux femmes, en tant que réalité sociale, de développer une connaissance profonde de leur situation, de se réapproprier les éléments essentiels de leur vie et de trouver une issue à la crise du XXIe siècle imposée par le système patriarcal, capitaliste et colonial. La géonologie est une science sociale développant une méthodologie alternative, tout en critiquant la mentalité positive des sciences modernes construite par le point de vue hégémonique de l'homme occidental, qui, au lieu d'être au service de la libération de la société, devient un outil de contrôle et de défense du statu quo. Réunissant des femmes de différents peuples et cultures, la géonologie est une actrice importante de la révolution du Rojava. Elle est aujourd'hui développée dans toutes les régions de... Elle est développée dans toutes les régions de l'administration autonome du nord et de l'est syrien, ainsi que dans toutes les régions du Kurdistan. Depuis quelques années, elle a traversé les frontières du Moyen-Orient, trouvant une résonance internationale, notamment en Europe, en Amérique du Sud, où elle génère l'intérêt des mouvements des femmes et des féministes du monde entier. Donc voilà pour ce qui était un peu sur le point de cette nouvelle science. Donc il y avait pas mal de femmes kurdes à la manif qui ont parlé de cette science-là, qui est une science féministe. Et le lendemain, il y a eu un événement. Toi, tu y étais, Morgane. Tu peux nous raconter un peu comment c'était cet événement ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, jeudi 8, du coup, il y avait le groupe de généalogie de Marseille qui se réunissait justement pour présenter un peu ce que c'est la généalogie et comment on peut l'inclure dans, on va dire, nos sphères de recherche. Pardon, je n'étais pas assez près du micro. Nos sphères de recherche et même dans la vie de tous les jours. Du coup, voilà, je vais essayer de vous retranscrire au mieux ce qui s'est dit pendant cette réunion qui était très intéressante. Donc en fait, elle, ça fait, on va dire, un an et demi qu'elle travaille sur ces questions-là et qu'elle essaye de se réapproprier un peu les manières de faire en généalogie et les manières de faire de la recherche autrement, on va dire. Parce qu'en fait, la généalogie, ça part aussi de un peu sortir des sphères hégémoniques de recherche par lesquelles on passe tous et toutes, vu qu'on a des schémas de pensée qui sont un peu construits, enfin, occidentalo-construits et souvent construits par des hommes. Et en fait, elles reprennent du coup d'autres manières de transmettre, d'autres manières de faire et d'autres manières de voir les choses. Et ce qu'elles essayent d'expliquer, c'est que c'est pas évident parce que du coup, c'est beaucoup de textes à traduire, beaucoup de choses à se réapproprier, beaucoup de fonctionnements de pensée à reconstruire, à déconstruire, à refaire. Et donc, elles, c'est ce qu'elles essayent de transmettre. Et donc voilà. Et en fait, elles ont parlé à un moment d'une petite histoire que j'ai trouvée assez intéressante et qui, moi, me parlait beaucoup sur comment faire de la recherche différemment. Parce qu'en fait, on vit un peu dans une société de l'instantanéité où tout doit aller très vite. Et notamment dans la recherche, en fait, dès qu'on a une question, ben, faut qu'on ait la réponse, là, sous nos yeux, quoi. Enfin, je sais pas si vous faites ça, mais moi, quand j'ai une question, je vais directement demander à Google et j'ai la réponse. Enfin, pas vraiment à Google, à Quant, qui est un système de recherche qui ne sauvegarde pas vos données, je vous conseille tous de faire ça. Et du coup, voilà. Et donc, en fait, elle, ce qu'elle explique, c'est que, justement, il faudrait plutôt prendre le temps, trouver d'autres biais et attendre parfois que les réponses viennent à nous. Et donc, elles ont raconté cette histoire, en fait, de femmes qui cherchaient à retranscrire une chanson kurde qui avait été un peu perdue et où peu de personnes avaient encore cette chanson avec elles. Et on leur avait parlé d'une femme dans un village d'un certain âge qui avait cette chanson et qui pouvait leur transmettre. Donc elles se sont rendues à ce village pour avoir cette chanson justement. Et une fois arrivées là-bas, la dame leur a dit « Oui, je vais vous la chanter ». Et donc elles ont attendu. Et en fait, c'est au bout du troisième jour, donc après avoir passé trois jours avec cette dame, que d'un coup, comme ça, elle s'est mise à chanter, un peu sans prévenir. S'est mise à chanter la chanson. Donc là, vite, elles ont sorti un papier, un stylo. Elles ont commencé à écrire les paroles. Et je trouvais ça intéressant, en fait, comme exemple de... Je sais pas, de dire que si elle l'avait chanté au bout de trois jours, elle serait restée trois jours. Si elle avait chanté au bout d'une semaine, elle serait restée une semaine. Et en fait, d'attendre justement que la transmission se fasse, et peut-être que cette dame, elle avait besoin, je sais pas, d'avoir confiance en ces personnes ou d'être bien. Et elle le savait très bien qu'elle venait pour cette chanson-là. Et justement, elle a attendu. Et moi, je trouve ça à la fois beau et intéressant parce que je trouve que ça remet pas mal en question la manière dont on fonctionne, nous, dans notre société. Comment on vit et on ne s'est pas que dit ça à cette réunion, mais je trouvais que cet exemple il était un peu parlant pour mettre un peu des mots sur l'idée de ce que c'est la généalogie et la manière de produire du savoir.
Ouais, c'est trop intéressant et je trouve que ça fait partie de nos réflexions féministes de comment on se réapproprie le savoir, comment on pense et comment on fait science ensemble en sortant.
Comment on traite les gens aussi qui donnent des informations.
Les sciences qui ont été faites par beaucoup et médiatisées par des hommes blancs occidentaux. Je trouve ça trop intéressant que aussi dans les luttes féministes, dans un jour qui était de grève féministe, de parler de ça, de comment on fait science et comment on pense ensemble et comment on réfléchit nos luttes. Et c'est pour ça que le 8 mars, c'était la journée d'une grève féministe qui était nationale. C'était un très beau moment à Marseille parce que, en fait, il y a eu la ZOF, pour celles qui n'étaient pas, c'était la zone d'occupation féministe. Ça a duré de 14h à 17h et en fait, c'était sous le Vieux-Port. Il y avait plus de 11 collectifs féministes, transféministes qui étaient présentes. Et c'était vrai. Enfin, et même nous à Radio Galère, on a fait un plateau radio pendant plus de 3 heures où où d'abord on a parlé avec les personnes de Marseille 8 mars qui nous ont expliqué qu'est-ce que c'était une grève féministe. Après, il y a le collectif des femmes iraniennes qui sont venues au plateau et qui ont lu leur tribune et expliqué la lutte en Iran, ce qui se passe aujourd'hui et qui est complètement aberrant. Et c'était rempli, enfin c'était très courageux quoi. Et après, on est parti avec un petit micro à chef. On est parti tout simplement aller questionner tous les stands et leur demander qu'est-ce qui se passait et tout ça. Et c'était vraiment un beau moment. Je vous invite à réécouter sur Radio Galère le 8 mars, le direct du 8 mars de 15h à 18h. C'était super. Et après, on est tous partis en manif de nuit, en manif radicale. Et on était plus de 8000, donc c'était vraiment un bon moment. Voilà. On arrive gentiment sur la fin de cette émission et du coup...
Moi je voudrais faire un petit rappel aussi des rendez-vous à suivre. Le 25 mars à la Porte d'Aix, à 11h, il y a la manifestation contre la loi Darmanin, donc le 25 mars à 11h, Porte d'Aix. C'est important, il faut être là. Et puis je voudrais remercier aussi du coup Morgane, Marie, Jade... d'être là aujourd'hui sur le plateau, toi aussi Louise, avec tes beaux yeux.
On est content que tu sois là.
Et big up à Mathéo pour le montage et merci Walter aussi pour quelques entretiens. Et voilà, on se retrouve dans deux semaines à 13h30.
Ouais, dans deux semaines. Et on va s'écouter le dernier son de cette émission, toujours choisi par notre DJ Murray. Pull up.
Fallait choisir entre les deux dernières. Du coup, c'est Tribade et c'est Las Desheredadas.
Wow. Merci.
Ouais, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À bientôt sur Informaction.
Informaction.
Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre,
las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan.
Notre futur sans moins art, art comme quand on squatte les halls. Ma parole, il n'y a pas pire si ce n'est l'atoll. Dans les geôles, on s'enrôle, on craque, on gobe à tour de rôle. Des cachets d'horoïque nol, tu